Alors, nous voulons vous souhaiter une très bonne année, tous les deux. Alors, je ne sais pas si elle sera très bonne, c'est un souhait. Ça, je ne peux pas vous assurer qu'elle sera bonne. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est de la fidélité du Seigneur. Ça c'est une certitude que personne ne peut enlever. Dieu est fidèle. C'est dans sa nature. Et il nous le prouve bien. Dans les moments heureux comme dans les moments plus difficiles, il nous accompagne, il est là. Notre prière, c'est que chacun puisse vraiment être à la gloire du Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous voulons tout faire pour la gloire du Seigneur et ensemble, eh bien, durant encore cette année 2003, le servir de tout notre cœur et que Jésus ait la première place dans nos vies et dans l'Église. Alors j'ai demandé à Sabine de vous lire quelques passages de la parole de Dieu pour les laisser sur votre cœur en début de cette année.
Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans un des psaumes, psaume 45, « Mon œuvre est pour le roi ». Il est écrit aussi dans lorsque Dieu parla à Josué. Alors, j'ai pas pris mes lunettes, c'est pas grave. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a pu dire aussi un jour à Paul, ma grâce te suffit. Alors, bien-aimé du Seigneur, que tout ce que nous ferons, tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous penserons, tout ce que, voilà, soit fait pour la gloire du Seigneur. Sachant que le Seigneur sera avec nous, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, il sera avec nous dans tout ce qu'on entreprendra. Chaque jour suffit sa peine, mais Dieu a pu dire à Paul, ma grâce te suffit. Alors que Dieu vous bénisse, Dieu est avec nous, il nous aime.
Voilà, Dieu soit béni. On va, pour introduire ce message de ce matin, faire une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous le savez, puisqu'on vient de le lire de toute manière, que nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ. L'apôtre Paul le dit. En début d'année, nous recevons les uns et les autres des cartes, des lettres pour les vœux. Enfin, maintenant, ça se fait de moins en moins. On envoie des textos, des messages sur Internet. Mais il fait toujours plaisir de recevoir une carte, une lettre de quelqu'un, des amis, de la famille. Nous en avons reçu une pendant la période de Noël, une qui vient du Canada, qui a traversé l'Atlantique, et qui est venu jusque dans notre boîte aux lettres, enfin dans la boîte aux lettres de notre fille plus exactement, qui nous était adressée. Et ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un a pensé à nous et qui nous a écrit une lettre. Il y a des cartes que nous gardons longtemps, j'en ai gardé une là, signée de certains amis qu'on connaît depuis une trentaine d'années. Et quand on reçoit ces cartes, ces lettres de vœux, ça nous fait plaisir. Il y a ainsi des lettres que l'on garde longtemps, qu'on n'y touche pas. Depuis notre mariage, on a reçu, après notre mariage, des lettres que j'ai encore, des gens qui nous ont souhaité tous leurs bons vœux pour notre vie de couple. Et donc, il y a des lettres comme ça qui nous touchent, des lettres qui nous marquent. Et j'aimerais vous dire que, parce que ces personnes-là, bien sûr, représentent quelque chose pour nous, et en plus, il y a non seulement les personnes qui envoient, mais aussi la teneur, le contenu de ces lettres que nous pouvons recevoir. Or, ici, il est écrit que la lettre n'est pas envoyée par n'importe qui. Eh bien, c'est une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Nous recevons des lettres de certains amis. Nous recevons des lettres des impôts. Bon, ça, c'est moins amusant. Et de certaines administrations. Mais là, il est question d'une lettre de Christ. Alors, peut-être d'abord replacer ce que dit ici l'apôtre Paul dans le contexte. On connaît les difficultés que pouvait avoir l'apôtre Paul et ses coéquipiers avec cette église de Corinthe, où il y avait de très bonnes choses, mais malheureusement, il y avait aussi quelques divergences, quelques même dérives, on peut le dire, même au niveau moral et au niveau de la pratique culturelle, il y en avait aussi. Et certains avaient tendance à mépriser le ministère apostolique de Paul. Et il parle de ces lettres de recommandation que certains avaient, mais l'apôtre Paul n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de ces lettres de recommandation, ni de leur part, ni de d'autres personnes auprès d'eux. Et donc il dit, mais c'est vous qui allez être notre lettre, le fruit du ministère de l'apôtre Paul, eh bien, c'était cette église de Corinthe où il est resté plus longtemps que dans les autres églises. Il nous est dit qu'il est resté environ un an et demi dans cette église et puis après, il a gardé contact avec cette église. Il a donc pu exercer pleinement son ministère au sein de cette église et il dira, c'est vous qui êtes notre lettre. Notre lettre. Alors, s'il dit notre lettre, bien sûr, il dira après que, eh bien, ils sont une lettre de Christ. Notre lettre dans le sens qu'elles ont été écrites dans nos cœurs. Il dira, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, écrite dans nos cœurs. Vous savez, il y a des lettres comme cela où on a besoin de calme pour les écrire. Peut-être que certaines, on se met au bord d'une table et on écrit vite fait, mais selon les personnes et selon ce que l'on veut dire, il y a certaines lettres qu'on écrit, on a besoin de calme, de se retrouver dans une pièce et là, on va peser chacun de nos mots, on va essayer de bien construire nos phrases pour bien faire comprendre à la personne ce qu'on veut lui dire. Si la personne nous est chère et qu'on a un message à lui transmettre, ce message, il vient de notre cœur. Il vient de notre cœur. Et l'apôtre Paul a dit que vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ce que l'apôtre Paul a pu faire, ainsi que les missionnaires qui étaient avec lui, et on pense à certains qui sont bien connus, eh bien, ils étaient là, ils tenaient les chrétiens, cette église dans leur cœur, ils les aimaient, ils les chérissaient dans leur cœur, ils priaient pour eux, ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient leur dire lorsqu'ils seraient présents, ils réfléchissaient à leur message, à leur prédication, à ce qu'ils allaient faire au milieu d'eux. Donc,
Tout ça se passait dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, qu'elle soit prière individuelle devant le Seigneur, mais qu'elle soit aussi prière commune, puisque l'apôtre Paul et ses équipiers se tenaient aussi ensemble dans la prière pour ces églises. Elles ont été écrites dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, et il parle, eh bien, que ces lettres de Christ au verset 3 ont été écrites par notre ministère. Elles ont été écrites par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il écrit dans nos vies, c'est avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. L'encre, ce n'est pas du stylo, ce n'est pas une encre qui existe sur cette terre, mais elle a été écrite avec l'esprit du Dieu vivant. Les ministères ne sont en fin de compte que des stylos entre les mains du Seigneur, mais le stylo par lui-même n'est rien s'il n'y avait pas l'encre, ni celui qui manie le stylo. Or, celui qui manie le stylo, c'est le Seigneur, et l'encre, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Cet esprit de Dieu qui est là, qui nous façonne et qui vient mettre en nous la volonté de Dieu. L'apôtre Paul parle un peu plus loin dans ce même chapitre de ces tables qui avaient été écrites dans l'Ancien Testament, ces tables où il y avait les 10 commandements. Elles ont été écrites, certes, par le doigt de Dieu, mais sur des tables de pierre. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Or là, maintenant, elles n'ont pas été écrites sur des tables de pierre, mais elles ont été écrites, ces paroles, ce que Dieu veut écrire, elles ont été écrites sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est là que Dieu vient graver ses commandements, c'est là que Dieu vient graver sa volonté, sa parole. Elle vient l'écrire dans nos cœurs, c'est, j'allais dire, le sens même, l'essence même de la nouvelle alliance, cette alliance que Dieu a contracté avec nous au moyen du sang de son Fils Jésus-Christ, eh bien, il l'a gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que son nom soit béni. Ce que nous vivons, tout à l'heure, je souhaitais nos meilleurs vœux, et il est vrai qu'on se souhaite beaucoup de bonheur les uns et les autres, mais nous ne sommes pas dupes, nous savons de quoi est formée la vie, nous savons que eh bien, la vie est faite de joie, certes, mais qu'elle est faite aussi de difficultés. Mais au travers de tout ce que nous vivons, Dieu, par le Saint-Esprit, est celui qui est en train de graver quelque chose dans nos cœurs afin de faire de nous, les uns et les autres, cette lettre, une lettre écrite, une lettre écrite par le Seigneur. C'est une lettre de Christ. Nous sommes, les uns et les autres, une lettre écrite. Et l'apôtre Paul précise que cette lettre, elle est connue et lue de tous les hommes. Vous savez, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. C'est bien de s'arrêter sur chacun des mots. Parfois, c'est vrai, on lit de tels passages, on les lit, ça nous fait du bien, mais c'est bien de s'arrêter, de noter, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? En effet, une lettre connue et lue, si j'envoie une lettre à quelqu'un, mais que cette personne n'ouvre pas l'enveloppe et ne la lit pas, ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. Et si Dieu fait de nous ces lettres à lui, c'est pour que ces lettres soient connues, c'est pour que ces lettres soient lues. L'Église, lorsque l'apôtre Paul écrit ici aux Corinthiens, nous sommes dans les premiers temps de l'Église, les toutes premières décennies de l'Église. Aujourd'hui, même, j'allais dire, ceux qui ne sont pas chrétiens savent plus ou moins, parfois moins que plus, mais plus ou moins ce qu'est le christianisme et ce que sont les chrétiens. Mais là, nous sommes vraiment, vraiment au début, dans les premières décennies du christianisme, et on voit déjà l'impact que les églises ont sur le monde. D'ailleurs, dans les actes des apôtres, il dit ces hommes qui ont bouleversé le monde. D'un coup, ça a été fulgurant. Ça a été fulgurant, la progression de l'évangile avec cette manifestation de démonstration d'esprit et de puissance par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Dieu a démontré sa puissance. Dieu a manifesté son amour et Dieu a manifesté sa fidélité. Et en si peu de temps, l'apôtre Paul pouvait dire, mais vous êtes une lettre connue et lue de tous les hommes. De tous les hommes. C'est à Antioche, alors que nous sommes dans les premières années de l'Église, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Qui ? Ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. Mais on les a appelés chrétiens. C'est-à-dire ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin. Il y avait même une petite plaisanterie, une petite moquerie derrière tout cela. Mais c'est pour dire le témoignage que nos premiers frères et sœurs en la foi avaient, à tel point que les gens de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Jésus, on peut dire, mais voilà, ce sont des chrétiens, des gens qui reflètent par leur vie, eh bien, la personne du Christ qu'ils annoncent, la personne du Christ qu'ils prêchent, qu'ils aiment, qu'ils chantent, qu'ils prient. Et nous, de même, aujourd'hui, nous voulons être ces lettres qui sont connues et qui sont lues, c'est-à-dire des gens qui nous observent. Vous savez, on est observés, hein, plus qu'on ne pense. On est observés plus qu'on ne pense. Des fois, on a été étonné en discutant avec certaines personnes, et parfois c'est même avec nos voisins. Pourtant, parfois on n'échange pas plus que cela, mais ils ont vu au travers de nous quelque chose de différent. Ça nous est peut-être tous arrivé. Et après, Dieu peut susciter des occasions pour que nous puissions leur parler d'une manière un peu plus approfondie. Et là, mais on a remarqué chez vous qu'il y avait quelque chose de différent. Vous voyez, les gens nous observent. Nous sommes lus. Nous sommes lus. Nous sommes une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Connue et lue de tous les hommes. En faisant de nous ces lettres, Jésus veut transmettre un message. Il veut transmettre un message. Nous sommes les missives du Seigneur. Il veut transmettre un message. Qu'est-ce que Dieu veut transmettre au monde ? Qu'est-ce que Dieu veut transmettre à notre entourage ? Qu'est-ce que Dieu veut transmettre à nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur ? Il veut leur transmettre au travers de nous un message de ce qu'il est lui, de son amour, de sa patience, de son sacrifice à la croix, de son œuvre, au travers des œuvres que Dieu fait dans nos vies. Déjà même, notre conversion, nous sommes passés de la mort à la vie. Et déjà même, ceux qui nous ont connus avant notre conversion et ceux qui nous connaissent après, cela, eh bien, transmet un message. C'est un message que Christ transmet, non seulement pour nous-mêmes, mais c'est un message que Dieu transmet au monde. Nous sommes une lettre connue, élue, eh bien, de tous les hommes. Ceci étant dit, est-ce que ces lettres sont-elles finies ? Est-ce que Dieu a mis un point final à chacune des lettres que nous représentons ce matin ? Le point final arrivera le jour où nous quitterons ce monde. Le jour où notre heure sonnera et que, à notre tour, eh bien, nous allons décéder. À moins, bien sûr, que Jésus revienne avant. Le point final sera donné là. Mais même après notre mort, ce que nous avons été va continuer encore dans le cœur de quelques-uns à faire son chemin. Parce qu'une lettre, on ne l'oublie pas comme cela. Et ceux qui nous ont connus, même si nous sommes morts, continueront à penser à nous ce que nous étions. Oui. Ce que nous étions. Mais tant que ce point final n'est pas mis par le Seigneur, eh bien, Dieu écrit encore dans nos cœurs. Il a encore des chapitres à écrire, de nouvelles pages à écrire. Dieu n'en a pas fini avec nous. Alléluia. Dieu n'en a pas fini avec nous. J'aimerais vraiment le dire en cette nouvelle année, Dieu n'en a pas fini avec nous. Il veut continuer à écrire de nouveaux chapitres, de la même manière, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Et il peut y avoir dans nos vies plusieurs phases, plusieurs chapitres. Et chacune de ces phases peut être totalement différente les unes des autres, mais elles sont interdépendantes, dans le sens que une phase de notre vie n'aurait pas pu avoir lieu si la phase précédente n'avait pas eu lieu. Ce que nous vivons aujourd'hui et ce que le Seigneur a écrit dans nos cœurs aujourd'hui, durant peut-être quelques années, va influencer peut-être une nouvelle phase, un nouveau chapitre que Dieu va écrire. Et au travers de chacune d'elles, Dieu parle, Dieu transmet un message. J'aimerais parler d'un homme, Moïse. Moïse a connu plusieurs phases dans sa vie. Il n'est pas le seul à connaître plusieurs phases. On aurait pu parler de David. David aussi a connu plusieurs phases dans sa vie, et chacune, au travers de chacune de ces phases qu'il a connues, et Dieu a écrit dans son cœur quelque chose, eh bien, cela transmet un message, et chacune de ces phases a donné naissance à une autre. Il y a la première phase où David, enfant adolescent, était un jeune berger, il gardait le troupeau de son père, et déjà, eh bien, il composait des cantiques, déjà il s'était un musicien, déjà il chantait les louanges du Seigneur. Et puis il y a eu une phase où David était un responsable militaire au sein de l'armée d'Israël, gendre du roi. Et puis il y a eu une autre phase où David a été roi, et chacune d'elles sont interdépendantes mais totalement différentes. Pour Moïse, arrêtons-nous sur Moïse. Moïse, on a l'habitude de dire qu'il y a eu trois phases dans sa vie. À chaque fois, Dieu a écrit quelque chose de nouveau dans la vie de Moïse. Et ce nouveau chapitre, à chaque fois, eh bien, transmet un message qui, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous est parvenu. Il y a eu ces premières 40 ans où Moïse a été élevé à la cour de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, est-il écrit, fils de la fille, donc un homme important, un homme qui faisait partie, considéré comme faisant partie de la famille restreinte de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, donc un homme qui était promu à un bel avenir. Est-ce que pendant ces 40 premières années, Dieu travaillait déjà son cœur? Est-ce que Dieu travaillait le cœur déjà de Moïse? Oui. Est-ce que Moïse était déjà dans la foi dans ses 40 premières années? Oui, puisqu'il est écrit que dans l'Épître aux Hébreux, que Moïse, devenu grand, que c'est par la foi, donc il avait déjà la foi, Moïse, dans ses 40 premières années, que par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Ça, c'est dans ses 40 premières années. C'était déjà un homme qui avait la foi. Et même si on lit d'autres textes au sujet de Moïse, c'est dans ses 40 premières années qu'il a déjà eu à cœur de faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Il se sentait appelé dans ses 40 premières années. Et dans ses 40 premières années, Dieu a écrit quelque chose dans le cœur de Moïse. Puis est survenu un incident qui a été un élément déclencheur qui va amener Moïse dans sa deuxième phase. Il y a souvent des éléments déclencheurs Moïse de lui-même n'aurait pas passé 40 ans dans le désert. Il n'aurait pas passé 40 ans comme cela. Mais il y a eu un élément déclencheur. Mais souvent, il y a des éléments déclencheurs dans notre vie, des événements familiaux ou peut-être de santé ou professionnels ou autres, qui nous obligent à entrer dans quelque chose dans lequel nous-mêmes, nous ne serions pas allés de notre propre initiative. Oubliés de tous. 40 ans. Il y a eu cet incident qui s'est passé en Égypte et Moïse a été obligé de fuir. Et pendant ces 40 ans, il a rencontré son épouse, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père et oublié de tous, on pourrait dire, mais pas de Dieu. 40 ans. À quoi ont servi ces 40 ans ? Moïse en avait certainement besoin. Pour devenir l'homme le plus patient de l'époque, il fallait certainement que ça demande du temps, que Dieu travaille son cœur. Oui, dans les 40 premières années, eh bien, Moïse était déjà dans la foi, mais non, il n'était pas prêt. Oui, il savait déjà que Dieu l'appelait, puisqu'il y a certains textes de la parole de Dieu qui nous le montrent, mais non, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, c'était une responsabilité colossale à laquelle Dieu l'appelait, et il fallait qu'il y ait ce chapitre-là de 40 ans. Et là, pendant 40 ans, Dieu a écrit sur le cœur de Moïse. Il a imprégné un caractère particulier à Moïse. Jusqu'au jour où il y a eu cette rencontre, parce qu'il n'avait pas encore lui-même fait cette rencontre avec Dieu, au travers du buisson ardent, jusqu'au jour où ça a été là aussi un élément déclencheur qui va l'introduire dans la troisième phase. Et là encore, il y a eu cet élément déclencheur. Vous avez trois phases différentes totalement, mais qui sont interdépendantes. La deuxième n'aurait pas pu avoir lieu sans la première, et la troisième sans la deuxième et la première. Il fallait, pour la troisième étape, que Moïse ait vécu cette deuxième étape où Dieu a imprégné dans le cœur de Moïse quelque chose, il a écrit. Et ce qu'a été Moïse nous est transmis encore aujourd'hui grâce à la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes une lettre écrite. Et il se pourrait, eh bien, que déjà quelques-uns d'entre nous, bien, entrent dans une nouvelle phase totalement différente de ce qu'ils ont vécu jusqu'alors. Et là, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus sans nous-mêmes brûler les étapes, mais en lui faisant confiance, en marchant pas après pas, en sachant, on ne sait pas où on va, mais en sachant que de toute manière, que Dieu est en train d'écrire quelque chose dans nos cœurs. Alléluia. Dieu est en train d'écrire quelque chose dans nos cœurs. Et ce que nous pouvons vivre individuellement, nous pouvons le vivre aussi au niveau de l'Église. Il peut y avoir plusieurs phases au niveau d'une église. La parole de Dieu nous parle dans le livre de l'Apocalypse de sept églises. Sept églises sont nommées. Nous sommes là à la fin du premier siècle lorsque Jean l'apôtre a écrit ce livre de l'Apocalypse. Nous sommes à la fin de la première du premier siècle donc du christianisme. Donc les églises mentionnées ont deux, et pour les plus anciennes, trois générations, pas plus. Pas plus. Elles ont donc déjà assez d'histoire pour avoir une identité et pour avoir vécu plusieurs phases. Pour certaines églises, on n'a pas leur début. On n'a pas dans la parole de Dieu, par exemple, il est parlé de Pergame, de Smyrne. Bon, on n'a pas le début de ces églises. Mais pour d'autres, on a le début de ces églises. Éphèse, par exemple. Éphèse, on a les débuts, le tout début de cette église. Dans les Actes des Apôtres, comment cette église a vu le jour De quelle manière glorieuse cette vie. Et puis après, on a l'épître aux Éphésiens. Donc, il y a le début, il y a quelques années après le début, et puis après, il y a ce qu'est devenu cette Église, environ 60 ans après. Grosso modo, 60 ans après. Et il y a eu plusieurs phases pour cette Église. Il a fallu, dans la troisième phase, que Dieu interpelle cette Église, parce qu'il n'en avait pas fini avec cette Église. Même si cette Église avait abandonné son premier amour, Dieu voulait encore écrire quelque chose dans cette Église et avec cette Église pour qu'elle puisse transmettre un message. Trois générations à peu près. Depuis, on pourrait presque faire la similitude avec le début du réveil de Pentecôte en France, à peu près trois générations aussi, grosso modo. Mais Dieu n'en a pas fini. Il n'a pas fini d'écrire. Et il en est de même avec l'Église ici même à Sainte-Anne. Le Seigneur n'a pas fini d'écrire. Il a encore quelque chose à écrire dans l'Église. Et ce qu'il va écrire dans l'Église, ça, c'est pour être un message connu et lu de tous les hommes. Un chapitre qui n'aura peut-être rien à voir avec les chapitres précédents, mais qui n'aurait pas pu avoir lieu sans les chapitres précédents. Aussi, il ne faut pas renier notre histoire. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, notre histoire. Même à notre point de vue personnel, notre histoire, elle est ce qu'elle est. Et ce que nous sommes aujourd'hui est l'héritage de notre histoire. Les différents chemins par lesquels le Seigneur nous a fait passer. Mais si cette histoire a eu son utilité, nous voulons regarder à cette nouvelle page qui est peut-être pour l'instant toute blanche. Mais Dieu a pris son stylo et il est en train d'écrire. Et je veux croire que le Seigneur, va écrire une nouvelle page pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Une nouvelle page qui n'aurait pas pu avoir lieu sans toutes ces années passées. Mais une nouvelle page quand même, différente. Qu'est-ce que Dieu va écrire? C'est dans son cœur. Mais nous lui faisons confiance parce que nous savons que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Qu'est-ce que tu vas nous amener à vivre, Seigneur? Mais au travers de ce que nous allons vivre et de la manière dont nous vivons les choses, dans la manière dont nous allons réagir face à ces choses, le Saint-Esprit va écrire quelque chose. Il va écrire quelque chose pour que notre génération puisse avoir ce message que Dieu veut leur transmettre. Nous sommes une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes, que Dieu soit glorifié. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui inlassablement et peut-être même à nos yeux parfois invisiblement écrit dans nos cœurs. Sans que nous nous en rendions compte, mais tu écris, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire, comme Ésaïe t'a dit un jour, me voici, Seigneur. Nous voulons nous rendre disponibles entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux nous faire vivre? Où veux-tu nous amener, Seigneur? Nous voulons te faire confiance, comme Moïse en son temps. Tu as produit, Seigneur, des éléments déclencheurs à chaque fois pour lui faire vivre ces nouvelles périodes, nouvelles saisons, nouveaux chapitres, Seigneur. Alors, Seigneur, tu permets parfois, il est vrai, des moments, Seigneur, déclencheurs, peut-être même parfois des crises, mais pour nous faire entrer, Seigneur, dans quelque chose de nouveau que tu as prévu dans ton cœur, afin de laisser un message dans notre génération. Béni sois-tu, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Ensemble, nous te prions pour toute cette année, nous voulons te faire confiance. Tu es le Dieu vivant et vrai. Et Seigneur, nos yeux sont sur toi. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.